On connaît bien cette histoire de Jacob et d'Ésaü, la fourberie de Jacob qui vraiment ne se conduit quand même pas d'une façon très exemplaire. Il profite de la faiblesse de son frère, il vole la bénédiction de son père. Ensuite, il va encore tromper son oncle Laban. Enfin, Jacob est vraiment un personnage très, très tortueux. Et voilà ce qui, moi, a attiré mon attention dans cette histoire. C'est le verset 27 du chapitre 25 que je vous ai lu, où il est écrit « Jacob était un homme parfait ». Ça, c'est très surprenant, ça. Le texte de la Bible dit « Jacob était un homme parfait ». Est-ce que vraiment, en lisant cette histoire, on peut penser que Jacob était parfait, ce trompeur, ce tortueux, ce menteur? D'abord, c'est idiot, enfin, je dirais, personne n'est parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait, et comme le dit Paul en Romains 10, il n'y a pas un juste, pas même un seul, et donc personne dans la Bible n'est considéré comme parfait. On n'a jamais dit nulle part qu'un homme de la Bible, un patriarche ou qui que ce soit, puisse être parfait. Même Jésus refuse d'être appelé bon. Vous savez, quand le jeune homme riche vient le voir et lui dit « Mon bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Un seul est bon, c'est Dieu. » Alors, effectivement, Jacob considéré comme parfait, voilà qui est très surprenant. Voilà qui est très surprenant. Et c'est tellement saugrenu que les traducteurs ont toujours, tous les traducteurs sans exception, aucun n'a osé mettre « là, Jacob était un homme parfait ». Dans ma version que je vous ai lue tout à l'heure, le traducteur a dit « Jacob était un homme tranquille qui aimait mieux vivre sous les tentes et Ésaü aimait mieux la campagne ». Je crois que la traduction œcuménique dit « Jacob était un homme raisonnable ». Mais pourtant, l'hébreu est très clair et c'est bien écrit à Jacob était un homme parfait. Alors je pense qu'il faut prendre le texte au sérieux et se dire que si là la Bible nous dit que Jacob était parfait alors que toutes les apparences sont contre lui, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'important. Il doit y avoir là quelque chose qui est la clé de notre véritable humanité, quelque chose qui peut nous inviter à trouver une vérité très profonde de l'humanité vraie, en quelque sorte. Jacob, il est vraiment l'humanité vers laquelle nous devons courir. Alors, puisque matériellement l'histoire n'est pas très à son mérite, il faut sans doute essayer de passer sur un autre registre et se dire qu'il doit s'agir d'autre chose, probablement il faut en faire une lecture un peu symbolique, si vous voulez, un peu comme une parabole. Et on peut se dire qu'en effet, avec Jacob et Ésaü, on a deux types d'humanité. Ésaü, c'est la bestialité. Il est couvert de poils, il aime le gibier, il aime la bonne chair, il est rustique. Enfin, c'est vraiment l'homme de la... C'est l'homme animal, l'animalité, je dirais. Et Jacob, c'est au contraire la dimension spirituelle, pourrions-nous dire, la dimension plus religieuse, pourrions-nous dire, plus spirituelle, plus intérieure. C'est l'intériorité même. Jacob vit à l'intérieur des tentes et Ésaü vit à l'extérieur. Et du coup, on peut se dire, c'est ça finalement un peu notre histoire. Nous sommes tous comme Rebecca, qui a en son sein ses deux jumeaux, c'est-à-dire Jacob et Ésaü, qui se bataillent un petit peu dans son sein et ça la dérange, et ensuite ils vont continuer à se batailler, c'est-à-dire que nous sommes sans arrêt dans cette espèce de lutte en nous-mêmes entre ces deux humanités, l'une qui est tendue vers vers la chair et l'autre tendue vers l'esprit, l'une qui est tendue vers la satisfaction terrestre et l'autre vers une sorte d'élévation et de quête spirituelle. Alors du coup, si on le voit comme ça, le texte nous dit simplement que la meilleure des deux dimensions, c'est celle de Jacob, c'est-à-dire c'est la dimension spirituelle. Et je pense que l'ensemble du texte nous montre en quelque sorte un petit peu comment régler la querelle. Ésaü, je vous l'ai dit, c'est la dimension physique, évidemment. Le texte nous dit qu'il naît en premier, c'est évident. il est certain que notre dimension purement animale est la première. Un bébé qui vient de naître n'est pas un grand mystique. Un jeune enfant, finalement, vit dans l'animalité comme n'importe quel autre mammifère. Il cherche à sa sécurité, il cherche à manger, il cherche à se reposer, il cherche le contact physique et d'autres choses. Et donc, effectivement, que la première dimension, c'est celle d'Ésaü qui naît en premier. Jacob naît en deuxième, en tenant le talon de la première, c'est-à-dire c'est cette dimension spirituelle qui surgit après coup, je dirais, et qui vient à la remorque. Parce qu'en effet, nous naissons tous comme des animaux, et petit à petit, derrière cette enveloppe animale qu'est la nôtre, eh bien, il y a un autre homme qui vient à la suite, qui est accroché au talon du premier, et qui est cette dimension spirituelle, qui est la dimension aussi de l'esprit, de la foi, ou de l'idéal, de l'élévation morale, ou d'autres choses, c'est-à-dire justement ce qui est d'ordre non animal. Et le texte nous dit que, eh bien, ce que l'on espère, c'est que ce soit cette deuxième dimension qui prédomine sur la première, parce qu'elle est quand même nettement plus intéressante. Et en effet, c'est ce que dit Paul d'ailleurs dans 1 Corinthiens 15, ce passage que je vous ai lu tout à l'heure, où Paul dit la même chose. Il dit, vous savez, dans notre vie, il y a un corps matériel, un corps animal, dirais-je, et puis il y a aussi un corps spirituel. Il dit, le premier homme, le premier, c'est le matériel, c'est le naturel qui est premier, le spirituel vient ensuite, et c'est pas le contraire. De toute façon, le premier homme est tiré de la terre, il est terrestre, le second homme vient du ciel, et ce n'est pas le spirituel qui est premier, c'est le matériel. Donc effectivement, les choses chronologiquement sont dans l'ordre, c'est bien notre dimension matérielle qui est première, et pourtant, il faut arriver à faire au cours de sa vie cette espèce de switch qui fait que petit à petit, eh bien, c'est le spirituel qui vient dominer sur le matériel. Et ce switch, il faut le faire à temps parce que le monde matériel, de toute façon, est condamné à la mort. Et donc, un jour ou l'autre, notre homme matériel périra. Et s'il n'y a que du matériel, on périt avec. Et par contre, si c'est le spirituel qui est passé devant, eh bien, le spirituel pourra survivre, en quelque sorte. Et puis, tout ce texte est intéressant parce qu'il nous montre, la querelle entre les deux. Et c'est vrai que notre vie elle-même est souvent comme ça, une querelle. Nous sommes sans arrêt, en effet, dans la difficulté de la querelle entre l'idéal et puis la paresse, entre la volonté de servir et la volonté de rester soi-même dans son propre confort, entre soi et les autres, entre Dieu et puis le quotidien du matériel. Donc il y a une querelle entre les deux et nous pouvons vivre comme tiraillés entre ces deux frères qui se battent. Et le texte nous montre qu'à la fin, ils se réconcilient. Et donc l'idéal, bien sûr, de la chose, c'est finalement d'arriver à réconcilier les deux frères en nous et de faire en sorte que ces dimensions matérielles et spirituelles vivent en paix. Et ça, c'est assez important parce que beaucoup de religions, comme les religions de l'Inde, finalement toutes les religions montrent que nous sommes sans arrêt dans cette espèce de conflit entre le matériel et le spirituel. Et beaucoup de religions disent qu'il faut que le spirituel écrase le matériel, et autrement dit que le spirituel ne peut vivre que si on tue le matériel, selon cette espèce d'adage qui prétendrait que plus on abaisse le corps et plus on élève l'âme, comme s'il fallait, pour être spirituel, vivre dans un ascétisme, refusant tous les plaisirs du corps, refusant toutes les fonctions, même corporelles. Eh bien, l'Ancien Testament ne dit pas ça. Il dit qu'il faut que le spirituel domine sur le matériel, mais l'idéal, c'est qu'en fin de compte, il se réconcilie et qu'il puisse vivre en paix entre les deux, parce qu'on ne peut pas vivre sans arrêt spirituellement comme étant, comme Jacob, en fuite derrière le matériel qui le talonne, a toujours essayé de fuir devant les désirs de la chair, à fuir devant les plaisirs du monde. On ne peut pas vivre comme ça heureux. Et donc, à la fin, finalement, il se réconcilie, et c'est ça le but, finalement, de notre affaire. Alors, c'est vrai que Isaac, le père de Jacob et d'Ésaü, lui, passe à côté de l'essentiel. Il n'a vu qu'Ésaü, il ne se rend pas compte que Jacob est quelqu'un d'extrêmement important. Il le voit qu'Ésaü parce que Isaac, finalement, c'est un type assez simple et rustique, en quelque sorte. Et lui, il aime bien Ésaü parce qu'il lui fournit du bon gibier, qu'avec lui, on mange bien, que voilà, c'est un type costaud. Donc Isaac ne voit que la dimension matérielle des choses et il ignore Jacob. Et en même temps, je comprends parce que Jacob, on nous le montre, il est discret, il est effacé, il reste à l'intérieur. Et c'est tout le cas de notre vie spirituelle à nous, de notre dimension spirituelle, qui n'est pas la chose la plus fanfaronnante de notre existence. Notre dimension spirituelle n'est pas la partie la plus visible, la plus éclatante, la plus considérable. Et elle est presque insignifiante et on peut avoir tendance à l'oublier. Et donc il y a le risque, comme Isaac, d'être aveuglé par cette dimension animale et de miser toute notre existence finalement sur cette dimension purement physique, en aimant le gibier, en aimant la force, en aimant la fatigue que l'on ressent après une journée bien remplie, les activités diverses et variées, notre travail, ce que l'on accomplit, tout ce que l'on fait, au point d'oublier vite jusqu'à l'existence de cette dimension divine qui est en nous. Or, le texte nous dit que Jacob, donc, était un homme parfait, je le redis, et le texte dit « il demeurait dans les tentes ». Jacob demeurait dans les tentes. Il y a deux choses importantes là-dedans. Il y a d'abord le mot « demeurer ». « Demeurer », ça veut dire qu'il demeure éternellement, justement. Et que ce qu'il y a de fort dans cette vie spirituelle de Jacob, c'est que justement elle demeure. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose de constant qui reste éternellement et qui demeure pour rester et pour durer. Alors que Ésaü est dans le haut et le bas. Ésaü, il est enthousiaste quand il va chasser, et puis quand il revient, il est épuisé, il est prêt à vendre son âme pour un plat de lentilles. Enfin, c'est à peu près n'importe quoi. Et donc, Jacob, il demeure, et on nous dit aussi qu'il demeure dans les tentes. Alors, les tentes, ça c'est un fragile abri de toile, mais la tente revient très souvent dans toute la mystique juive, et en particulier, vous savez qu'il y a dans le judaïsme une fête des tentes, Soukhot, et que, où justement le judaïsme dit que nous devons apprendre à vivre dans cette espèce de fragilité finalement de celui qui est comme un nomade et qui est dans une tente, c'est-à-dire cette intériorité assez complexe et fragile, je dirais, qui n'est pas enfermée dans un donjon, mais qui est à l'intérieur. Et nous sommes invités à trouver justement cette espèce d'intériorité qui est compliquée. Quant au nom des deux frères, Jacob et Ésaü, ça veut dire la peau, ça veut dire le sang, ça veut dire aussi la terre, ça veut dire aussi ce qui est rouge. Ésaü, c'est on dit qu'il est aussi appelé Édom. Édom, c'est le même mot qu'Adam, et Adam, c'est la terre rouge. Adama, c'est la terre, et c'est aussi la couleur rouge en hébreu. Pour ça qu'on dit qu'au moment où il lui fait manger ce potage rouge de lentilles, on dit que c'est pour ça qu'on l'a appelé le rouquin, quoi, le roux. Et donc ça, Ésaü, certes, c'est l'homme animal. Et quant à Jacob, ce nom a plusieurs significations. Ça peut dire celui qui prend la place d'un autre, et c'est ce que Jacob fera, et je pense que c'est très bien. Et ça peut vouloir dire aussi celui que Dieu protège. Et effectivement, Jacob sera un peu les deux, il sera comme cet être spirituel qui est en nous, à la fois protégé par Dieu pour la vie éternelle et invité à supplanter tôt ou tard notre dimension animale, et je dirais le plus tôt sera le mieux. Alors vous disais-je, le texte nous montre que ces deux dimensions coexistent, Jacob et Ésaü, et nous sommes comme Rebecca ayant dans notre ventre ces deux dimensions présentes, cette double nature à la fois divine et humaine qui se bagarre un petit peu. Quant à savoir comment réunir les deux, c'est assez difficile en tout cas. Je crois que Comme dit l'Évangile, nul ne peut servir deux maîtres, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il faut choisir qui doit être devant. Et donc, il y a là un choix à faire. On ne peut pas vivre longtemps déchiré entre nos deux natures. L'une devra toujours commander l'autre et être devant l'autre. Et c'est grave si c'est le matériel qui tue le spirituel, c'est très dommage, c'est comme Caïn qui tue Abel, c'est tout à fait regrettable. Et le texte nous invite à dire que ce serait quand même beaucoup mieux que ce soit Jacob qui l'emporte sur Ésaü, c'est-à-dire que l'esprit l'emporte sur l'animal. Mais l'emporter, ça ne veut pas dire le tuer ou l'annihiler. Ésaü n'est pas tué par Jacob. Il faut arriver à vivre, comme je vous le disais, pacifié entre les deux, tout en sachant qui est le chef. Alors c'est vrai que dès notre naissance, ces deux natures sont en conflit, je vous le disais, et ça c'est le conflit permanent dans notre existence entre l'égoïsme et l'altruisme, entre soi et les autres, entre l'action et la paresse, entre l'engagement et la soumission, entre l'idéal et puis la mollesse. Et nous sommes déchirés entre ces deux natures. Et Rebecca ressent ce malaise, et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. C'est très beau quand elle sent que les deux enfants se battent dans son ventre. Elle dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Donc elle ressent ce conflit intérieur et elle ne sait pas comment le gérer. Elle dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et s'il est ainsi, pourquoi suis-je comme ça ? Pourquoi l'humain doit-il vivre sans arrêt, tiraillé entre ces deux dimensions dans sa vie ?» Alors elle fait la meilleure chose qu'elle pouvait faire, c'est de soumettre la question à Dieu. Et donc c'est ce que dit le texte, elle va en parler à l'Éternel. Et je pense qu'effectivement, Dieu est le meilleur arbitre, autrement dit, pour nous sortir de ce conflit intérieur, parce que Dieu, justement, n'est pas nous-mêmes. Alors, ce que propose l'Éternel, il va dire, il ne s'agit pas de détruire l'un des deux, mais de mettre Ésaü au service de Jacob, de mettre le corps aux dimensions de la vie spirituelle. Le plus grand sera le serviteur du plus petit des deux. Alors ça c'est bien, la première chose formidable de Rebecca, c'est que d'abord elle prend conscience de ce conflit. C'est déjà pas mal, hein. Beaucoup de gens ne se posent même pas la question et foncent à la suite d'Ésaü. Elle prend conscience de ce conflit et finalement elle assume la difficulté. Et ensuite elle va confier ce problème à l'Éternel pour l'aider à trouver le bon chemin. Et elle va trouver cette façon astucieuse de faire qui sera ni dans l'abandon de l'un ni dans l'abandon de l'autre, mais dans une façon d'essayer de gérer les deux en mettant Jacob au-dessus. Mais mettre Jacob au-dessus ne va pas être simple. Et là, on rencontre plusieurs choses. D'abord, il va falloir agir avec intelligence et même ruse. Alors, j'aime beaucoup cette histoire de la ruse de Jacob qui va... Vous savez, se déguiser en mettant une peau de chèvre sur ses bras pour que son père aveugle croie que c'est Ésaü qui était poilu, et il le touche, il dit oui, c'est lui. Et puis, donc il va ruser, mais je ne pense pas que la Bible nous invite à tromper notre frère ou nos sœurs, enfin, ou nos proches, c'est pas ça, mais de dire que dans notre vie personnelle, pour arriver à garder le cap, il faut parfois faire preuve de ruse. Et ruser, c'est être intelligent, comprendre, je dirais, la force qu'il peut y avoir en nous de nos capacités d'égarement ou de nos capacités d'égoïsme ou autre, et d'essayer de ruser pour trouver des façons de contourner ces faiblesses qui sont les nôtres. Et ruser avec ses propres faiblesses, c'est déjà les reconnaître, c'est-à-dire ne pas les sous-estimer, mais essayer de trouver des stratagèmes pour que finalement notre vie soit quand même dirigée par Jacob et pas par Ésaü. Cette histoire de ruse, effectivement, me plaît beaucoup. Et d'autres philosophes ont développé ça, comme Hegel, qui a consacré de très longs et compliqués chapitres sur la ruse de la raison. Et en effet, Hegel est intéressant, il montre que que tout est compliqué, et que la raison n'est pas une chose simple où on trouve ce qui est vrai et on l'applique, mais qu'il faut passer parfois par des chemins tortueux pour arriver à la justice et à la justesse. Et ainsi, dans notre existence, nous devons sans arrêt composer avec notre dimension physique. Et peut-être même que parfois, eh bien, il faut lui donner satisfaction pour avoir la paix, en quelque sorte. C'est ce que fait Jacob, d'ailleurs. Il va donner à manger à Ésaü quand il lui donne son roux. Et finalement, en lui donnant à manger, Ésaü lui fiche la paix. C'est assez intéressant, ça. Ça revient à ce que disait peut-être Paul dans ses épîtres à propos de savoir si on pouvait se marier ou pas. Il dit « il vaut mieux se marier que brûler ». Et donc finalement, oui, nous sommes des êtres de chair et de sang, et donc, écoutez, c'est très bien, il faut satisfaire son corps suffisamment pour qu'il ne vous embête pas, voilà. Et donc il faut ruser avec son corps pour que ce soit la raison qui demeure. Et autrement dit, il n'y a aucune culpabilité à donner satisfaction à Ésaü qui est en nous, si c'est pour faire en sorte que finalement, ce soit quand même Jacob qui ait le droit d'aînesse. Et quant après, eh bien, cette façon de se déguiser, ça fait partie de ces mille ruses que l'on peut trouver. Quand on connaît ses propres faiblesses, on est tout à fait à même d'arriver à gérer avec et à les contourner, à les embobiner pour que finalement, eh bien, nous puissions quand même arriver là où nous voulons aller. Et donc, petit à petit, arriver à retrouver, à redonner à Jacob, qui est en nous, cette première place. Et puis finalement, là, d'arriver, vous disais-je, à la réconciliation entre les deux. Alors, est-ce qu'on peut y arriver directement? Peut-être pas. Et peut-être que tout ce récit nous montre que finalement, même si les choix radicaux, à mon avis, sont mauvais, c'est-à-dire de ne vivre que dans la chair, ce serait à peu près idiot, ou de vivre que dans l'esprit, dans une sorte d'ascétisme terrible, de rejet du physique, ce serait aussi mauvais, mais en même temps, peut-être qu'avant d'arriver à faire la paix entre tous ces désirs terrestres et spirituels, peut-être faut-il passer par ces moments un peu difficiles de Jacob qui finalement est en fuite devant Ésaü. Mais en tout cas, cette fuite de Jacob devant Ésaü n'est pas le stade ultime. Et donc, je dirais, l'ascétisme de celui qui essaye de fuir les désirs du corps, de fuir le terrestre, de fuir le monde, pour se mettre dans une sorte de spiritualité pure, à mon avis, c'est pas bon, c'est pas du tout l'idéal. L'idéal, c'est Jacob qui, peut-être après ses tentatives de fuite, peut-être faut-il les avoir expérimentées, je ne sais pas, et bien finalement revient et trouve dans une relation pacifiée avec son frère. Peut-être qu'il faut passer par des sortes de tentations, de choix radicaux, finalement, dans sa vie, pour arriver à faire cette dimension purement très pacifiée en soi. Et puis peut-être aussi que cette primauté de Jacob n'est possible que lorsque Ésaü se rend compte que finalement sa vie turbulente ne le mène qu'à la fatigue et à la faim. C'est ce qu'il arrive quand il vend son droit d'aînesse. Il accepte finalement de passer en second. Il a fallu qu'Ésaü expérimente deux choses. L'une chose, c'est qu'il est fatigué et qu'effectivement, cette vie, cet engagement permanent dans le monde matériel, dans le monde du travail, le monde physique, le monde de la réussite, de la performance, à un moment donné, comme Ésaü, on dit « je suis fatigué ». Et je suis prêt à dire « je pense qu'il y a quelque chose qui doit être plus important que ça ». Et l'autre chose, c'est que Ésaü, bien qu'il revienne de chasse, a faim. Ça m'amuse beaucoup. S'il revient de chasse, il veut avoir plein de gibier sous le bras, pourquoi dit-il qu'il a faim? Eh bien, parce que peut-être faut-il avoir expérimenté cela aussi, c'est qu'une vie très remplie matériellement, comme Ésaü, finalement, peut laisser sur sa faim. Et à un moment donné, peut-être faut-il avoir expérimenté qu'on peut avoir faim d'autre chose. Et que justement, Jacob, à un moment donné, peut nourrir même la dimension matérielle de notre vie. Et que par conséquent, comme dit l'Évangile, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ou comme Jésus dit à la Samaritaine, à ses disciples au moment de la Samaritaine, quand il s'étonne qu'il ne mange pas, il dit « mais j'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas ». Et donc avoir fait cette découverte qu'une vie purement matérielle ne nourrit pas, ne nous comble pas, et tout à coup avoir ce désir d'une autre nourriture, quelque chose qui vienne donner, qui nourrisse notre existence. Et donc c'est là que commence la vraie sagesse, quand notre corps a l'humilité de reconnaître que sa force n'est pas éternelle, quand nous nous rendons compte que notre action dans le monde, aussi juste soit-elle, d'ailleurs, ne rassasie pas véritablement notre être, alors nous pouvons peut-être à ce moment laisser la première place à cet homme parfait, à cet homme spirituel qu'est Jacob. Bien sûr, cette dimension n'apparaît qu'en second dans notre vie, parfois tard, peut-être parfois même à la fin de la vie, je ne sais pas. Bien sûr, elle semble moins forte, moins éclatante, moins brillante, peut-être moins utile. Et pourtant, c'est cette dimension spirituelle qui peut nous donner l'accomplissement de notre être. C'est elle qui peut calmer notre faim et notre soif. Et c'est elle qui est la solution même de par rapport à notre faiblesse face à la mort. Et c'est elle qui peut régaler notre palais et nous combler de délices. Amen.